Ils sont venus, les forestiers de l'autre versant, les inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont venus nombreux. Leur troupe est apparue à la ligne de partage des cèdres et du champ de la vieille moisson, désormais irriguée et vert. La longue marche les avait échauffés. Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés. Visiblement, ils ne présumaient pas nous trouver là, sur des terres faciles et des sillons bien clos, tout à fait insouciants d'une audience. Nous avons levé le front et les avons encouragés. Le plus disert s'est approché, puis un second, tout aussi déraciné et lent. Nous sommes venus, dirent-ils, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan, de votre implacable adversaire. Nous avons dit merci et les avons congédiés. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on l'emparlât et que l'on dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. Ce sont quelques lignes du poème « Les inventeurs » de René Char, mais il est 14h, passé de 2 minutes bientôt. Tout est urgent, c'est le dernier jour d'octobre, mais c'est aussi le premier jour d'une nouvelle série des Nouvelles Vagues. Bienvenue à tous. Des histoires, l'essayiste et vidéaste Pacôme Thielman a un talent particulier pour en raconter, surtout quand le monde prend une drôle de tournure. Alice Ramon et Romain de Becdelièvre lui ont demandé d'être notre voix de la rubrique 5 fois en fin d'émission cette semaine et d'évoquer comme il le souhaite, pour éclairer notre chantier thématique, d'évoquer donc l'apocalypse. Aujourd'hui, carnaval.
Et l'apocalypse fonctionne comme une sorte de dernière fête, une fête finale, mais une fête d'horreur, une fête triste, une fête sombre. Mais c'est quand même la fête, c'est quand même la nécessité pour le carnaval de revenir une dernière fois avant le recommencement du monde.
Dernière fête vers 14h50. C'est le premier moment de ce chantier thématique autour des fins de monde. Aujourd'hui, une fin d'ère théorisée par les scientifiques du système Terre sous le nom Anthropocène. L'ère qui se termine serait celle de l'Holocène qui a duré plus de 10 000 de ces dernières années. L'ère nouvelle verrait apparaître l'espèce humaine et son action et disposant d'un impact similaire aux grandes forces telluriques. Ambiance fin de monde aussi à la vision du nombre effrayant d'espèces animales qui disparaissent. Ambiance fin de monde aussi à la connaissance de la part sauvage de cette terre, c'est-à-dire non altérée par l'homme, qui se réduit à vue d'œil comme peau de chagrin. Tout cela n'est pas une crise, écrit Christophe Bonneuil. Nous ne venons pas de nous réveiller, il s'agit de pouvoir penser en historien un mouvement de l'agir humain, sans faire abstraction de la dimension politique de cet agir humain sur le reste du vivant. Christophe Bonneuil qui signe l'événement Anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous, dont une nouvelle version est publiée en poche chez Point. Christophe Bonneuil qui est normalement en route pour nous rejoindre. Valérie Cavanès, vous êtes là, vous êtes juriste en droit international et vous publiez un nouveau droit pour la Terre, c'est dans la collection Anthropocène au Seuil et vous êtes au téléphone. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Je signale d'ores et déjà pour ne pas oublier que cette conversation trouvera précision et suite dans l'émission d'Aurélie Luneau, dimanche prochain le 6 novembre, sur le thème « Le droit au secours de la Terre » parce que vous serez invité et en compagnie de Jean Jouzel. Et puis en plateau, en attendant avec moi Christophe Bonneuil, Marie Toussaint, vous êtes aussi juriste et en droit international de l'environnement et vous êtes fondatrice et présidente de l'association qui s'appelle Notre Affaire à tous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand existe cette association et quel est son objet ?
Alors, nous avons fondé Notre Affaire à tous en août 2015, donc il y a un tout petit peu plus d'un an, tout simplement parce que, effectivement, en travaillant sur ces questions d'atteinte à l'environnement, d'écocide, etc., nous avons réalisé qu'il y avait besoin d'une mobilisation des citoyens pour réclamer la justice climatique. Et donc, comme cela a été fait aux Pays-Bas ou encore au Pakistan ou aux États-Unis, nous avons décidé de créer cette association.
Qui réunit donc des citoyens ?
Qui réunit des citoyens, des juristes, mais pas que, beaucoup de militants de la justice climatique qui se sont retrouvés ensemble réunis en préparation de la COP21 et qui continuent à agir ensemble pour effectivement faire reconnaître nos droits.
Puisque vous avez prononcé le mot écocide et que c'est un mot qui figure en couverture de votre ouvrage, Valérie Cabanès, est-ce que vous sauriez nous en donner une ample définition ?
Je vais commencer par son étymologie, parce que je la trouve très parlante. Eco vient de oikos, du grec ancien, qui veut dire notre maison. Et s'il vient de oxidere, du latin, qui veut dire détruire, tuer. Il s'agit donc effectivement du crime de destruction de notre maison commune, la Terre. Alors la définition que nous en proposons, en particulier à la Cour pénale internationale, s'appuie donc sur deux principes, à savoir un dommage grave qui puisse être porté à tout ou partie du système des communs planétaires ou à un système écologique de la Terre. Alors les communs planétaires, c'est un concept juridique qui n'existe pas encore. Il s'agit en fait pour nous d'apporter une personnalité juridique à des communs, c'est-à-dire à des lieux qui n'appartiennent à personne, mais qui sont à l'heure actuelle exploités par tous, comme les océans et les mers, au-delà des frontières nationales, comme l'atmosphère, les fonds marins, l'Arctique, l'Antarctique, les grandes rivières qui traversent les frontières, les espèces migratoires, et puis tous les cycles bio ou géochimiques dont on a besoin. Et enfin, quand on parle des systèmes écologiques, il s'agit en fait de définir très précisément tout ce qui concerne par exemple les processus de recyclage des nutriments, l'air pur, l'eau vive, la formation des sols. Il s'agit aussi de parler des sources d'approvisionnement en aliments nutritifs, mais aussi pour l'habitat, toutes les matières premières, toutes les ressources génétiques, les minéraux, l'eau pour l'irrigation, les ressources médicinales, les sources d'énergie. Enfin, on essaye de protéger ce qu'on appelle les processus de régulation parce que la mort est nécessaire à la vie, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir protéger les cycles liés à la décomposition des déchets, à la purification de l'air et de l'eau, au contrôle de tous les organismes et des maladies qui peuvent être nuisibles. Et enfin, c'est un point important, de protéger ce qu'on appelle les fonctions culturelles de l'écosystème Terre et qui apporte effectivement enrichissement spirituel, réparation psychologique, expérience récréative des uns et des autres, la connaissance scientifique aussi, puis tous les plaisirs esthétiques que peut nous apporter la nature. Alors ça paraît très détaillé, mais vous m'avez demandé une définition
simple. Bien sûr.
Mais voilà, l'objectif c'est effectivement de faire reconnaître, à travers la reconnaissance du crime d'écocide, de nouvelles personnalités juridiques, à savoir l'écosystème Terre en tant que tel, c'est-à-dire pouvoir ester en justice au nom de l'écosystème Terre parce que, effectivement, dans le cadre de l'effondrement dans lequel nous sommes, si nous ne le protégeons pas, nous ne protégeons pas la vie de tous les êtres vivants à naître. Et donc, justement, il s'agit aussi de reconnaître en droit les générations futures et de pouvoir ester en justice au nom de leur droit à un environnement sain, de façon à protéger leur avenir.
À l'instant, Marie Toussaint faisait part de cette date de création de son association Notre Affaire à Tous en 2015 et aussi de l'idée que ce soit tout de même lié à l'événement de la COP21. Ce terme écocide en droit et tout le mouvement juridique qu'il peut y avoir autour en termes de recherche et d'action, c'est un mouvement qui existe depuis combien de temps, Valérie Cabanès ?
Alors, le terme d'écocide en tant que tel est utilisé depuis 50 ans exactement, en 2016. Il est apparu dans le discours public en 66 par un biologiste qui avait travaillé sur des insecticides, des herbicides pour Monsanto et Bayer pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de sa thèse. Et il s'est rendu compte en 66 que l'armée américaine avait utilisé le fruit de ses recherches pour défolier toutes les forêts du Vietnam pendant la guerre du Vietnam, ce qui a contaminé durablement l'environnement. Et il y a encore des enfants aujourd'hui qui naissent avec des malformations graves. Il a été horrifié et donc il a commencé déjà à alerter le grand public sur ce sujet-là. Et puis le terme a été repris en 72 à l'ouverture de la conférence de Stockholm, le premier sommet de la Terre, par le premier ministre suédois Olaf Palme, qui a qualifié donc la guerre du Vietnam de crime d'écocide. Et il est en discussion depuis dans le débat juridique international avec des hauts et des bas. Donc nous sommes, je dirais, dans une lignée de juristes qui tentent de faire reconnaître donc les crimes contre l'environnement, mais au-delà vraiment ce crime contre l'écosystème Terre, c'est-à-dire d'une façon qui ne soit pas seulement anthropocentrée, c'est-à-dire de reconnaître que on doit protéger la nature pour elle-même, et de fait ça protégera les populations humaines, depuis l'écriture du statut de la Cour pénale internationale, qui s'appelle le statut de Rome, où la mention d'écocide ou la mention des crimes contre l'environnement en temps de paix a été enlevée en 96 du statut. Ce qui est très dommageable et ce qui a été fait sous la pression de pays puissants comme la France à cause de ses intérêts nucléaires. Et donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, face à l'urgence dont on parlera sûrement pendant l'émission, il est nécessaire aujourd'hui de reconnaître cette nouvelle valeur qui est la sûreté de la planète et de reconnaître ce crime qui permettrait justement de protéger l'habitabilité de la Terre pour tous.
Vous parlez d'un mouvement de juristes et je disais avant que l'émission ne commence à Marie Toussaint que c'était peut-être la première fois que nous recevions un mail d'auditeur avant que l'émission ait lieu et qui disait sa méfiance à l'égard du terme d'anthropocène, à l'égard du terme d'écocide. Est-ce que ça signifie que c'est un mouvement qui est discuté, qui est remis en question, ce mouvement de juristes autour du terme d'écocide ?
Alors, je crois que il y a déjà en France, donc ce terme d'écocide est connu en fait que depuis l'initiative citoyenne européenne qu'on avait menée en 2013, le mouvement End Ecocide. Il était utilisé par certains juristes comme Laurent Néret auparavant, mais ça restait dans un milieu assez académique. Et il n'est pas toujours très bien compris, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir opposer nature et homme. Et quand il s'agit d'écologie, à considérer que toute personne qui défend juridiquement la nature oppose, rentre dans une dynamique radicale en considérant que l'homme est un fléau et que l'on doit finalement préserver la nature de l'homme. Mais ce n'est pas du tout notre objet. Au contraire, c'est d'amener à une prise de conscience qui nous permette de nous réconcilier avec la nature qui en fait est nous-mêmes. Nous sommes partie intégrante du vivant. Nous avons besoin des autres êtres vivants. Le reste du vivant a besoin de nous. Et c'est cette prise de conscience-là que nous appelons à émerger parce que il semble vraiment que depuis le début de l'ère industrielle, depuis que le droit finalement sert d'abord des intérêts économiques, nous l'ayons tous oublié et franchement nous allons droit dans le mur en continuant de cette manière. Donc voilà, c'est peut-être une façon de mal interpréter nos objectifs. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez nous donner la parole pour qu'on puisse l'expliquer.
Alors on reviendra sur cette question des aires différentes parce que Christophe Bonneuil vient d'arriver, mais simplement pour poursuivre sur la définition ample, comme on l'a dit, du terme écocide, est-ce que c'est un mot que vous utilisez, Marie Toussaint, dans votre action et dans votre association, Notre Affaire à Tous ?
Alors effectivement, d'abord les membres fondateurs de Notre Affaire à Tous sont très largement issus du mouvement pour la reconnaissance des écocides, mais avec une nuance importante quand même. L'écocide, c'est œuvrer, comme Valérie Cabanès vient de l'indiquer, à faire reconnaître et punir les atteintes les plus graves à l'environnement. Chez Notre Affaire à Tous, on défend toute une série de mesures qui visent à protéger l'environnement, mais au-delà, ou en tout cas en deçà, des crimes les plus graves contre l'environnement. Notre action, elle est celle pour la justice climatique. Ça veut dire que notre action principale et majoritaire, la raison de notre création, c'est celle de faire adopter aux États, donc par notre action des citoyens en France, des ambitions de lutte contre le dérèglement climatique qui nous permettent de préserver la vie de l'humanité et des écosystèmes sur la planète Terre. Donc ça veut dire qu'on demande effectivement la reconnaissance des écocides, mais ce qu'on demande avant ça, c'est effectivement que la France fasse tout et mette tout en œuvre afin d'œuvrer autant qu'elle le doit du fait de sa responsabilité historique pour ne pas dépasser le réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius, ainsi que nous y incite l'accord de Paris.
Christophe Bonneuil, bonjour.
Bienvenue. Bonjour.
Merci d'être là. C'est pas grave, tant que vous arrivez, c'est l'essentiel. Je rappelais avant votre arrivée que notre chantier thématique cette semaine se résume sous l'expression fin de monde. Et dans votre livre, vous expliquez bien combien il y a quelque chose qui se termine, en effet. En tout cas, il y a bien quelque chose de sûr qui se termine. Ce serait l'Holocène. Alors avant de définir l'Anthropocène, est-ce que vous pouvez définir l'Holocène ?
Alors, l'Holocène, c'est la période des 12 000 dernières années, donc depuis la dernière glaciation, où la Terre a pu bénéficier d'une température et d'un niveau des mers presque inchangés pendant 12 000 ans. Donc une période de relative stabilité si on compare aux dizaines de milliers d'années antérieures. Et comme par hasard, c'est dans cette période de stabilité qu'ont pu émerger tout un ensemble de cultures humaines dont nous sommes les héritiers. Et c'est de cet état relativement stable, qui a duré une dizaine de milliers d'années, que l'Anthropocène marque la sortie. Donc c'est un concept qui a été proposé il y a une quinzaine d'années par toute une série de chercheurs, climatologues, spécialistes de la chimie, de l'atmosphère, des sciences du système Terre, comme il s'appelle, pour signaler ce basculement, c'est-à-dire que c'est pas seulement le climat, c'est pas seulement la biodiversité, c'est aussi le cycle de l'azote, c'est aussi les usages des terres, la déforestation, le cycle du phosphore, la circulation des eaux, qui sont sortis des fourchettes, des paramètres de variation de l'époque de l'Holocène, et on passe dans un autre état dont on ne sait pas où sera la stabilité, qui est un basculement profond. Donc la leçon de ça, finalement, c'est que ce que nous vivons, c'est pas juste une crise écologique, fût-elle globale, c'est un basculement géologique. C'est une nouvelle époque pour l'histoire de la Terre.
D'ailleurs, vous insistez beaucoup sur le fait de ne pas penser ce mouvement-là ou cet événement comme une crise, parce que ça aurait, ça soutiendrait l'idée qu'elle aurait une fin et que ce serait un mouvement qui pourrait se résorber. Pour autant, lorsque vous parlez de l'Anthropocène, vous dites qu'il y a des débats sur le début, donc peut-être sur la fin. Puisqu'on parle du fin du monde, de la fin de l'Holocène, certains le feraient remonter au début du 19e siècle, d'autres parleraient plutôt de la grande accélération après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des débats qui se basent sur quoi ?
Alors, du point de vue des géologues qui font de la stratigraphie, ils cherchent à trouver des traces dans les sédiments. Donc des marqueurs extrêmement clairs. Or, si on fait démarrer l'Anthropocène au début de la révolution industrielle, le marqueur principal, c'est la concentration en carbone de l'atmosphère. Or, cette concentration commence à sortir des fourchettes de l'Holocène dans les années 1810. On commence à percer le plafond de l'Holocène à ce moment-là, mais c'est progressif et la trace n'existe que dans les carottes glaciaires. Il suffit que les pôles fondent et cette trace-là disparaît. Et donc, d'un point de vue du géologue qui cherche des preuves qui puissent être encore présents sur Terre dans 10 millions d'années, il se dit « je préfère des traces qui sont dans la roche ». Et donc, du coup, pour pouvoir solidifier le débat sur l'Anthropocène, certains ont proposé la date de 1945, explosion nucléaire en juillet aux États-Unis pour préparer Hiroshima et Nagasaki. À partir de ce moment-là, on a des marqueurs radioactifs qui n'existaient pas auparavant dans la nature et qu'on retrouvera dans 10 millions d'années dans les sédiments. C'est aussi le début d'une société de consommation de masse, de l'ère du plastique, de l'ère des pesticides. Tout ça, ça laissera des traces dans les sols dans des millions d'années. Donc voilà un petit peu le débat. Finalement, à la limite, on va laisser les scientifiques travailler. Moi, ce qui me semble en lien avec la question de l'écocide et des nouveaux droits intéressants à poser, c'est que finalement, il y a eu deux vagues importantes d'évolution du droit. Je ne sais pas si Valérie Cabanès en a parlé. L'époque des Lumières, une conquête des droits humains, politiques, civiques, basée sur un individu un petit peu déconnecté de ses besoins, de ses nourritures naturelles. Au 19e, 20e siècle, apparaît la société industrielle qui est porteuse d'accidents, de risques, de maladies, de gens qui vieillissent et qui ne sont plus en état de travailler. Et on a dû lutter pour inventer des nouveaux droits économiques et sociaux au 20e siècle face à ces nouveaux risques du monde industriel. Aujourd'hui, au 21e siècle, on est face à une nouvelle vulnérabilité des vies humaines sur la planète du fait de ce basculement écologique et géologique. Et donc, toute la question pour les juristes et pour les mouvements sociaux, pour les victimes, c'est de conquérir une troisième vague de droits humains qui permettent de créer des nouvelles solidarités, des nouveaux droits, dans laquelle des droits qui ne sont pas pensés comme si on était indépendant de la nature, mais comme si, en fait, les vies humaines, les vies des peuples, la souveraineté des peuples étaient liées à des territoires et au bon état des écosystèmes dans lesquels ils habitent. Donc c'est une façon de refonder les droits de l'homme comme si on n'était pas arraché à la nature. C'est une révolution intellectuelle.
Et il n'y a pas que des vies humaines en jeu.
La moitié du vivant, donc rayé de la carte en 40 ans, un exploit dont seule l'espèce humaine est capable. En faisant quoi? Eh bien, en urbanisant la planète, ce qui réduit l'habitat des différentes espèces par une agriculture intensive et ses intrants chimiques, par la déforestation, par la surexploitation des espèces, les poissons par exemple, il y a aussi la pollution, les espèces invasives qui signent l'arrêt de mort des autres et le changement climatique dans une moindre mesure pour l'instant, mais ça ne saurait durer, prévient le WWF.
WWF qui signe un tout récent rapport sur un exceptionnel chiffre de disparition d'espèces animales. Vous avez parlé jusqu'à maintenant tous les trois beaucoup de la nature, du système Terre, des vies humaines, des écosystèmes humains. Or, vous écrivez bien, Christophe Bonneuil, dans le début de votre livre, combien est-ce que justement la surexploitation des zones de pêche, mais aussi le taux de disparition des espèces nous renseigne sur la fin d'un monde et le début d'un autre. En quels termes il nous renseigne?
Alors, si on regarde ça un peu froidement du point de vue d'un paléontologue de plusieurs millions d'années, il se dira que la période autour des années 2000 est l'âge du poulet. Dans les fossiles qu'on trouvera sur les oiseaux, il y aura plus de poulets que toute autre espèce d'oiseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de poulets que de tout autre individu d'oiseaux. Et d'une façon générale, l'empreinte des activités humaines sur la Terre est telle que les humains représentent à peu près un tiers de la masse des vertébrés terrestres aujourd'hui. Si on ajoute ça, leur bétail et leurs animaux domestiques, on arrive à 97%. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3% en termes de masse totale pour les 20 000 espèces de vertébrés sauvages sur la planète. Ça donne une idée assez vertigineuse du poids, de l'empreinte que nous avons sur l'ensemble des écosystèmes terrestres.
Ça va dans le sens d'un mot qu'on n'a pas encore complètement défini, qui est l'anthropocène. On a dit ce qui se terminait, ce qui s'ouvre avec l'anthropocène, qui est donc un terme qui apparaît au début des années 2000. C'est cette idée-là, c'est l'idée d'une empreinte irréversible et forte de l'activité, de l'agir humain sur le reste du vivant?
Oui, alors c'est vrai que depuis au XVIIIe siècle, il y avait encore une commensurabilité entre l'âge de la Terre et l'histoire humaine. On pouvait penser que la Terre avait 5-6 000 ans et on comptait les générations dans l'Ancien Testament pour dater la naissance, l'origine de la Terre. À partir de la fin du XVIIIe siècle, ça devient impossible. Le temps de la Terre s'allonge sur des centaines de milliers d'années, puis des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, on sait que la Terre a 4 milliards et demi d'années. Et c'est énorme par rapport à la durée de la présence humaine sur Terre, Homo sapiens, 200 000 ans à peu près. Et donc, on a séparé, dans notre façon de penser l'histoire de la Terre et l'histoire humaine, on a séparé ces deux temporalités. Et les scientifiques qui étudient l'histoire longue de l'évolution biologique, par exemple chez Darwin, ou l'histoire longue de la Terre, ont étudié tous ces phénomènes, finalement, en considérant que le facteur humain était négligeable. Que l'essentiel des paramètres qui joue sur l'histoire de la Terre, c'est les variations de l'activité du Soleil, c'est l'orbite terrestre, c'est les phénomènes profonds de tectonique des plaques et de volcanisme, et l'humain n'a rien à voir là-dedans. La découverte de l'Anthropocène, c'est de réaliser que les activités humaines sont des forces telluriques, désormais, aussi grandes que ces facteurs extra-humains avec lesquels travaillaient jusqu'à présent les géologues. Et on s'aperçoit que même le volcanisme, paramètre a priori naturel, est influencé par les activités humaines, parce que, c'est un livre récent, si la glace des pôles fond, la pression qui s'exerce sur la croûte terrestre change et il y a une évolution, une modification, une altération des phénomènes volcaniques. Donc c'est vraiment une prise de conscience que l'histoire humaine et l'histoire de la Terre sont désormais, vont main dans la main.
En même temps, vous parlez de crise de conscience et en même temps, vous critiquez beaucoup dans votre livre l'idée d'un réveil des consciences, une forme de découverte. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre? Est-ce qu'il faut parler quand même d'une prise de conscience ou est-ce qu'il faut parler d'un mouvement de l'agir humain qui avait parfaitement conscience de la manière dont il empruntait la Terre, dont il agissait sur la Terre, dont il faisait violence aux vivants?
Alors, vous avez raison, il y a deux pièges dans le terme d'anthropocène. Le premier, c'est de culpabiliser l'espèce humaine de façon indifférenciée, comme si ce n'était pas certains groupes particuliers qui étaient plus responsables
d'ailleurs,
que d'autres.
D'ailleurs, si on va aller plus loin, il y a comme s'il n'y avait pas des injustices.
Voilà, comme s'il n'y avait pas des injustices environnementales, comme si un Indien Yanomami devait se sentir responsable de ce qui se passe aujourd'hui.
Au même titre, en tout cas.
Voilà, il faut différencier les responsabilités humaines, et donc on pourrait inventer d'autres termes. On s'est amusé à ça dans notre livre L'événement anthropocène. Et le deuxième, effectivement, problème, c'est qu'il pourrait donner à penser que c'est une prise de conscience toute récente. Et ce que montrent 15 années d'histoire environnementale, notamment le livre de Jean-Baptiste Fressos qui s'appelait L'Apocalypse joyeuse en 2012, qui analysait les controverses au début de la révolution industrielle, c'est qu'en fait, autour de 1800, il y a des savoirs extrêmement forts sur les impacts humains sur l'environnement, sur les nuisances des activités industrielles sur les corps et les écosystèmes, des théories d'un changement climatique global provoqué par la déforestation. Il y a déjà beaucoup de savoir et beaucoup de contestation de cet agir industriel qui, dont on sait maintenant aujourd'hui à quel point il a fait basculer la Terre. Et donc, c'est pas les yeux fermés, c'est pas par inadvertance, c'est pas par inconscience qu'on est rentré dans ce modèle de développement fossile et industriel qui fait basculer la planète. Il a fallu pour cela fermer les yeux sur certaines alertes, il a fallu pour cela marginaliser certaines contestations, certains groupes sociaux qui s'y opposaient, pour finalement avancer sur la direction dominante qui a été la nôtre depuis deux siècles.
C'est pour ça que vous appelez à une pluralité des récits et à une version politique de cette histoire de l'événement anthropocène et non pas à une forme de quelque chose qui serait forcément, comment on pourrait dire, dépolitisé justement, de faire de l'action et de la découverte de l'empreinte de l'action humaine quelque chose qui n'aurait pas de valeur ni économique ni politique.
Oui, effectivement, parce que si on laisse à penser que c'est uniquement aujourd'hui, grâce à la science la plus moderne, qu'on prend enfin conscience et donc ça va aller mieux, et que les sociétés du passé ne savaient pas, c'est reproduire le récit moderniste finalement. Avant, ils étaient un peu ignorants, maintenant on est beaucoup plus fort qu'eux. C'est reprendre le vieux récit moderniste, et c'est dépolitiser le passé, c'est oublier qu'on a peut-être des choses à apprendre cette fin de monde qui est la conquête coloniale de l'Amérique. C'est le passage d'une population de 55 millions d'Amérindiens à 5 millions. Donc c'est un véritable effondrement pour ces peuples amérindiens. Il y a un très très beau livre qui s'appelle La Chute du Ciel, qui raconte finalement notre crise écologique du point de vue d'un chaman Yanomami. Et donc, finalement, des effondrements, d'autres peuples en ont connu. Donc, en tant qu'occidental, peut-être on a à apprendre de ces savoirs, de ces expériences du passé.
Mais ça nécessite de faire des histoires. Ça nécessite de mettre en place des histoires.
Il faut savoir hériter de ces mémoires. Faut éviter de les faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Ces signaux faibles, ces voix dominées, ces subalternes, c'est vraiment un travail des historiens depuis déjà plusieurs dizaines d'années, hein, de faire exister ces voix subalternes. Et de la même façon, on peut travailler de façon sérieuse pour mieux comprendre qu'est-ce que c'était que les raisons d'agir des ludites lorsqu'ils cassaient les machines. Ils avaient notamment un argument sur la durabilité des produits. Un pull fait à la main est plus durable qu'un pull fait à la machine.
C'est l'objet de l'émission de mercredi.
On en parle. On pourrait s'intéresser à des courants qu'on pourrait qualifier d'écolo ou de proto-écolo à l'intérieur du socialisme, notamment en Angleterre autour de William Morris à la fin du 19e, à l'intérieur de l'anarchisme avec les naturiens en France aussi à cette époque. On pourrait retrouver que dans les années 30, il y a des syndicats qui ont un discours anti-productiviste et qui revendiquent de gagner moins d'argent pour travailler moins face à la crise de surproduction des années 30. De toutes ces expériences, de toutes ces luttes, de toutes ces idées, on a peut-être des choses à apprendre pour aujourd'hui.
Bah écoutez, l'Anthropocène, c'est assez simple. C'est des humains qui sont devenus une force géologique. Ou une force géologique qui est maintenant remplie d'humains. Donc, par définition, la notion de nature et culture, qui était déjà discutable avant, n'a plus aucune espèce de sens. Et donc ça, les gens, commencent à le ressentir. Simplement, le problème, c'est que notre façon d'analyser la situation, et même l'anthropocène, c'est de continuer à utiliser cette distinction, disons, entre il y a la nature qui est extérieure et puis il y a les humains qui sont en quelque sorte soumis au principe de liberté et qui sont qui ont leur propre, disons, intériorité, pour le dire simplement. Donc le grand problème de l'Anthropocène, c'est est-ce qu'on peut être philosophiquement à la hauteur de ce que nous disent les géologues? Donc le paradoxe de la question de l'Anthropocène, c'est que c'est proposé par les géologues, les climatologues, les spécialistes de l'océan, les gens de qui font de la climatologie au sens large, et ensuite ils nous offrent en quelque sorte, à nous artistes, philosophes, sociologues et hommes politiques, ce cadeau, et ils nous disent, vous êtes à la fois une force géologique et des humains, essayez de vous débrouiller avec ça. Et là, le problème, c'est que les philosophes sont un peu en retard. Disons, ils continuent à être 20e ou 19e siècle, et ils continuent à faire la distinction en disant, il ne faut surtout pas mélanger, disons, le monde des objets et le monde de la liberté, disons, pour le royaume de la nécessité et le royaume de la liberté, pour prendre des termes kantiens.
Voilà une voix qu'on entend et qu'on attend lorsqu'on prononce le mot anthropocène. C'est la voix de Bruno Latour qui dit « Est-ce qu'on peut être philosophiquement à la hauteur de la proposition théorique faite par l'anthropocène ?» Valérie Cabanès, on pourrait décliner la question. Est-ce qu'on peut être juridiquement à la hauteur de la proposition faite par l'anthropocène ? Parce qu'il est difficile de se sortir de la distinction nature-culture, et on se rend bien même compte autour de cette table, tous les quatre, qu'il y a quelque chose de difficile à manier. Comment est-ce que vous le résolvez juridiquement de ne plus opérer cette distinction entre nature et culture, entre nature et société, entre vivant et humain qui en seraient séparés? Comment est-ce que ça se résout sur le plan juridique?
En fait, le droit est toujours quelque part l'aboutissement d'un cheminement philosophique et une fenêtre sur ce que sont nos valeurs à un moment donné. Et le droit actuel, en particulier le droit international, s'est construit depuis la conquête, depuis 500 ans, sous l'influence des sociétés occidentales, sous l'influence du judéo-christianisme, et surtout sous l'influence de grandes puissances conquérantes qui cherchaient à réguler les échanges commerciaux, à les structurer, à les normer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un droit qui finalement finit aujourd'hui par être véritablement au service des États, au service du commerce et depuis quelques années au service des multinationales. Donc ça demande effectivement une révolution philosophique, mais qui peut que le droit peut effectivement aider à affiner. Et parce que justement nous parlons d'une période qui est l'Anthropocène et qui est en lien avec un autre concept qui existe maintenant depuis 2009, qui est la notion de limite planétaire, à savoir effectivement calculer scientifiquement à partir de quel moment on dépasse la capacité du vivant à se régénérer et on fait basculer effectivement l'état planétaire dans une situation de façon assez rapide ou même très rapide selon les cas, qui ne permettent pas aux populations humaines, en tout cas les plus vulnérables, de s'adapter. Ces limites planétaires donc sont définies scientifiquement, ont été proposées par le Stockholm Resilience Center en 2009, réajustées en 2015. Elles concernent l'érosion de la biodiversité. Vous avez parlé du rapport de planète vivante du WWF qui nous alerte sur le fait que la population des vertébrés a chuté de 58% entre 70 et 2012 et qu'elle risque d'atteindre 67% d'ici 2020, ce qui veut dire que nous sommes concrètement rentrés dans une sixième extinction des espèces. Il s'agit aussi de la limite liée au climat, c'est-à-dire à quel moment effectivement le réchauffement climatique devient alors d'une part irréversible, ça on est déjà dedans, mais surtout intolérable pour la plupart des populations humaines qui vont devoir probablement quitter leur territoire, subir de grandes sécheresses, subir une intensité des cyclones et des ouragans et leur fréquence de plus en plus souvent, et devoir aussi changer même leur comportement agricole. En Namibie, en ce moment, il y a des personnes qui vivent maintenant dans deux endroits différents pour pouvoir cultiver. Et on a actuellement 14 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim dans toute l'Afrique australe sans que personne n'en parle. Et il y a d'autres, hein, limites planétaires. Il y a la problématique de l'acidification de l'océan qui a pompé un quart du CO2 en surplus depuis 200 ans et à une rapidité 100 fois plus importante que ces 300 millions d'années. Ce qui fait que à l'heure actuelle, les coquilles de tous les mollusques, de certains planctons sont en train de se dissoudre. Hein, c'est ce qu'on appelle l'aragonite. 50% de l'aragonite est dissoute aujourd'hui et donc menace toute la chaîne alimentaire. Et puis la pollution des eaux, des sols, la déforestation, toutes ces limites planétaires qui sont finalement donc proposées de façon scientifique peuvent aider le droit à se construire. Ce que nous proposons donc, c'est qu'effectivement, ces limites planétaires deviennent des normes juridiques et que le juge international puisse s'appuyer sur une expertise scientifique indépendante pour déterminer quelles seraient les pratiques industrielles qui mettraient effectivement la sûreté de la planète en danger et qui pourraient être considérées comme écocidaires ou potentiellement écocidaires, et que le juge puisse s'appuyer sur ces expertises pour, par exemple, poser des mesures conservatoires, préventives, en disant, écoutez, ce forage en Arctique, je considère, parce qu'il a été bien évidemment saisi par des citoyens, mais je considère que il va contribuer à menacer effectivement les conditions de vie sur Terre, parce qu'il contribue à dépasser la limite planétaire du réchauffement climatique. Et voilà. Et donc on a.
Et quoi alors? Et on l'arrête ce forage, parce que c'est la question, c'est justement.
Oui, alors là, et idéalement, oui, si vous voulez, c'est un choix, c'est-à-dire que soit on prend en considération cette réalité de l'anthropocène et les risques que cela fait courir pour l'humanité tout entière d'ici une centaine d'années, et à ce moment-là, on prend la mesure des enjeux, et à ce moment-là, effectivement, le droit norme l'activité industrielle et permet de discipliner les comportements industriels, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, puisqu'on est dans un système où les multinationales fonctionnent quasiment en toute impunité et qu'elles ne peuvent effectivement se retrouver acculées face à un arbitrage ou à une cour de justice internationale que par des États, mais quasiment jamais par des citoyens. Et donc, il est important, effectivement, à un moment donné, de remettre en question les activités qui sont dangereuses. Et ces activités, c'est ce que j'explique dans mon livre « Un nouveau droit pour la Terre », malheureusement, sont nombreuses et peuvent un peu effrayer le secteur économique quand on les cite. Mais il s'agit, effectivement, des énergies fossiles, de la plasturgie, du nucléaire, de l'extraction minière, de certains méga-barrages, et puis de l'industrie agroalimentaire, qui contribuent toutes à leur niveau à faire, à dépasser justement ces fameuses limites planétaires définies par le Stockholm Resilience Center. Alors il faut savoir que les Nations Unies ont créé un groupe de travail autour de ces limites planétaires. On les a pas sortis d'un chapeau, c'est quelque chose qui aujourd'hui est déjà discuté au sein des Nations Unies. Ce qui serait intéressant, c'est qu'elles deviennent de vraies normes juridiques.
Qu'on puisse appliquer et en effet dont les citoyens soient en mesure de s'emparer pour attaquer par exemple des grandes logiques industrielles. Mais à vous entendre, Nathalie Cabalès, on se rend compte quand même de l'énormité du chantier. Vous dites à la suite de Bruno Latour qu'il faut à la fois dans un dialogue du juridique et du philosophique changer complètement de paradigme. Et lorsque vous énumérez toutes ces grandes entreprises industrielles dont l'empreinte a un impact énorme sur le vivant, on se rend bien compte que c'est tout un système de fonctionnement global qu'il faut remettre en question.
Oui, j'assume complètement. J'assume complètement de le dire. Mais je crois qu'il faut qu'on sorte aussi du déni quand il s'agit du déni ou de la sidération, parce que certaines personnes en sont conscientes mais sont terrorisées par ce qui nous attend et préfèrent ne pas le regarder en face. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que, je ne sais pas, si je prends par exemple la problématique du changement climatique et de ses conséquences sur la fonte des glaces, on est dans une situation où même le GIEC n'ose pas prendre en considération toutes les dernières recherches depuis 2015-2007 qui nous démontrent qu'il va y avoir un phénomène d'emballement à un moment donné, que la fonte des glaces va provoquer le relâchement, le dégazage de quantités de méthane qui est beaucoup plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Il est 23 fois plus puissant. Et on est déjà dans une situation qui a été diagnostiquée en 2015 par une équipe de recherche qui nous démontre que on a à l'heure actuelle une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui correspond à une autre période de l'histoire, qui était il y a 125 000 ans, et où un emballement s'est produit très rapidement, et où les eaux sont montées de 5 à 9 mètres selon les endroits du globe, ce qui veut dire très concrètement qu'on a à l'heure actuelle 15 mégapoles qui sont menacées, plus effectivement des zones immenses habitées, comme le delta du Bangladesh, le Vietnam, la Camargue, la Vendée, et j'en passe, qui vont effectivement subir les conséquences de cette activité industrielle. Donc soit on le regarde vraiment en face, on regarde aussi en face la réalité des migrations qui vont s'accentuer de façon dramatique dans les décennies qui viennent. On s'alarme en France pour quelques milliers de migrants syriens, mais là aussi, les chiffres sont considérables. On s'attend à 60 millions de réfugiés environnementaux ou climatiques d'ici 2020 en Afrique subsaharienne, 250 millions dans le monde. Et si l'on garde ce cap industriel qui nous mène vers un réchauffement à 3 ou 4 degrés, c'est probablement une personne sur 7 sur Terre qui risque de devoir quitter son domicile. Donc les tensions géopolitiques vont être énormes. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que le crime d'écocide soit reconnu dans le cadre de la Cour pénale internationale, parce que de fait, c'est un crime qui menace la paix, puisque les crimes jugés par la CPI sont des crimes contre la paix et la sécurité humaine, et c'est véritablement la définition que nous en faisons.
À 14h41, pour quelqu'un qui ne siège pas aux Nations Unies, j'aurais plutôt tendance à dire que ce cap industriel est globalement gardé par une grande partie des États, une grande partie des grands groupes dont vous décrivez la puissance. Valérie Cabanès, est-ce que vous avez la sensation que, par exemple, le fait que ces limites planétaires soient mises en discussion aux Nations Unies est un signe que ce paradigme bouge, un bon signe?
Oui, il y a plusieurs bons signes. Alors, il y a effectivement la discussion sur les limites planétaires. Il y a aussi un groupe de travail qui s'est créé au sein des Nations Unies, dont je fais partie, qui s'appelle Harmony with Nature, vivre en harmonie avec la nature, et qui est sollicité pour en fait influencer toutes les futures résolutions, les futurs traités, de façon à amener une vision éco-centrée et non plus anthropocentrée du droit, ce qu'on appelle une jurisprudence de la Terre, pour faire prendre en considération par les États cette importance de reconnaître l'interdépendance entre les êtres vivants. Et puis là, je reviens de Genève, où est en discussion par les États l'idée d'un traité contraignant demandant aux multinationales de respecter les droits de l'homme. Donc, comme je dis contraignant, ça veut dire aussi avec une possibilité de les poursuivre. Et il est vrai qu'au sein des Nations Unies, moi je m'attends en tout cas à ce que le processus soit long et difficile, parce qu'on va avoir des grandes puissances comme les États-Unis qui vont tout faire pour essayer de faire capoter les négociations. Mais le processus est en route. Il vient d'être voté il y a 2 jours une résolution pour un traité contraignant amenant un désarmement nucléaire global qui a été soutenu par 128 États. Et puis on a cette notion d'écocide qui avance et qui est intéressante, parce que la CPI est un organe indépendant des Nations Unies et ne peuvent voter des amendements à son statut que les pays qui en sont signataires. Et par exemple, les États-Unis ne le sont pas, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas influencer les votes, en tout cas en assemblée. Donc il y a de fait une prise de conscience, et puis après on le voit à travers des décisions de certains États qui ont décidé de sortir de certains traités commerciaux qui les liaient avec certaines multinationales. Le Sri Lanka a fermé sa porte à Monsanto, le Burkina Faso vient de fermer sa porte à Monsanto, le Salvador le fait depuis déjà un bon moment, par rapport d'ailleurs à différents types d'industries polluantes. Et puis des États inscrivent dans leur constitution ces nouveaux concepts juridiques que nous proposons en Occident. Nous les retrouvons en Amérique du Sud, par exemple dans la constitution de 2008 équatorienne, qui reconnaît les droits de la terre-mère, qui reconnaît la possibilité d'ester en justice au nom des écosystèmes. Et en Bolivie, depuis 2009, dans une loi aussi des droits de la terre-mère. Il y a aussi des comtés aux États-Unis qui ont décidé d'inscrire dans leur législation locale les droits de la nature ou le droit des générations futures. Donc c'est pas du tout, une utopie totalement émergente. C'est simplement un processus qui est en cours un petit peu partout dans le monde, mais qui a du mal à s'implanter dans la psyché occidentale parce qu'elle secoue beaucoup de nos valeurs depuis très longtemps.
Et alors, en tant qu'historien, Christophe Bonneuil, pourquoi est-ce que ça a tant de mal à s'implanter dans notre psyché occidentale, comme dit Valérie Cabanès, où vous revenez beaucoup dans votre ouvrage sur cette distinction nature-culture, nature-société, nature-humain qui n'a plus cours au moment où on se propose de penser l'Anthropocène? Ce serait l'une des raisons?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que le défi que pose Bruno Latour en disant il faut qu'on se remette à nous positionner dans le monde, non pas avec nous d'un côté les sujets et de l'autre côté la nature comme catégorie qu'on externalise et qu'on objectifie, se pose à toutes les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire en histoire, en sociologie, en sciences politiques, on peut plus analyser la dynamique des sociétés sans prendre en compte les flux de matière et d'énergie, ces formes de réalité qui constituent aussi la trame des sociétés. Par exemple, il y a un très très beau livre qui raconte l'histoire de la démocratie en Occident. On a tendance à penser la démocratie comme juste des arrangements politiques entre différents intérêts, différentes passions humaines, donc finalement des négociations entre des humains. Et ce que nous montre ce livre de Timothy Mitchell, Carbone démocratie, c'est que l'État-providence du début du XXe siècle, qui est progressivement conquis par des décennies de lutte sociale, il est rendu possible dans une société industrielle qui dépend du charbon, où le charbon est lourd à extraire, il est lourd à transporter, et il se trouve que les mineurs et les cheminots sont les groupes sociaux les plus importants dans ces mouvements ouvriers qui vont finalement civiliser le capitalisme sauvage et faire émerger des droits économiques et sociaux. Apparaît le pétrole, et notamment en Europe après 1945, aux États-Unis un peu avant. Ce pétrole, il est beaucoup plus dense en énergie pour un seul kilogramme. Donc il a besoin de moins de travailleurs. En plus, on fait un trou en Arabie Saoudite, ça sort presque tout seul. Il en faut beaucoup moins. Ce sont des travailleurs qui sont plutôt à l'extérieur de nos systèmes sociaux, qui sont pas syndiqués pareil, qui sont pas payés pareil, etc. Et Timothy Mitchell analyse comme ça une dégradation de la qualité de nos démocraties après 1945, qui prépare le tournant néolibéral des années 70. Du coup, c'est passionnant parce que c'est une façon de penser la démocratie en réincorporant la nature, entre guillemets, justement.
Donc, c'est quand même très difficile à parler sans ça. Mais pour l'instant, c'est ça.
Ce qui nous entoure et ce qui nous traverse, cette matérialité, ces joules et ces tonnes qui nous constituent elles aussi. Et du coup, le défi, ça peut être qu'est-ce que serait une démocratie post-énergie fossile?
Et d'ailleurs,
Du coup, tout ce mouvement, par exemple, qu'on trouve en Allemagne avec des coopératives, des régies municipales qui produisent de l'énergie renouvelable dans un cadre de propriété collective et citoyenne, ça représente la moitié de l'énergie renouvelable produite en Allemagne. C'est pas les grands groupes qui la possèdent, ce sont ces collectifs citoyens. Finalement, un modèle post-carbone de ce type-là est à la fois une transition d'un point de vue énergétique et à la fois un nouveau modèle démocratique. Et donc, finalement, ça nous oblige à penser le devenir de l'émancipation, le devenir de la politique, de la géopolitique, de la démocratie, en prenant en compte la matérialité, les limites de la planète.
Parce que, d'ailleurs, Christophe Bonneuil, vous écrivez combien est-ce que la fin d'un monde ou la fin d'une ère est forcément le début d'une autre? Marie Toussaint, dans notre affaire à tous, les citoyens qui composent l'association sont aussi porteurs de cela, sont aussi porteurs de l'idée d'un renouveau politique, d'un renouveau de la pensée qui ne se contente pas simplement de dire à la France et aux États, attention, on ne doit pas dépasser tel degré ou telle pollution dans l'atmosphère.
Alors, chez notre affaire à tous, on a effectivement deux convictions. L'une, c'est que on ne peut plus exercer de démocratie simplement à travers la démocratie représentative. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui puissent être des contre-pouvoirs à la fois pour protéger les citoyens en tant qu'êtres humains, mais aussi, pour toutes les raisons évoquées par Christophe Bonneuil et Valérie Cabanès, des contre-pouvoirs qui permettent de protéger la nature et de l'intégrer comme un objet politique, un sujet, en réalité pas un objet, mais un sujet politique dans le débat. Et donc cette possibilité pour les citoyens de d'agir en justice contre les États ou les multinationales ou encore d'autres sujets, doit pouvoir être en vigueur, notamment pour protéger la nature. Notre seconde conviction, c'est effectivement qu'il faut qu'on reconnaisse et qu'on ouvre de nouveaux droits. Alors, l'une des choses que je voulais dire, c'est que on a souvent l'impression qu'on est en train de parler de choses nouvelles, et en réalité, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on parle de donner des droits à la nature, ou en tout cas de permettre à la nature d'ester en justice.
Je crois qu'on l'a dit, hein, que c'était une prise de conscience qui relevait.
Dans le droit français, alors il y a eu plusieurs étapes pour en arriver là, mais dans le droit français. Dans le droit français, on a notamment reconnu, là, dans les derniers mois, le préjudice écologique, qui n'est autre que de dire la nature doit pouvoir être protégée pour ce qu'elle est, même lorsqu'il n'y a pas d'atteinte à un intérêt personnel humain. Et on a même ouvert la possibilité pour des groupes de citoyens d'ouvrir ce qu'on appelle une action ouverte ou une action de groupe pour des situations de préjudice écologique. Ça veut dire qu'on a déjà passé la barrière de dire la nature peut être protégée pour elle-même ou pas. On a déjà ouvert cette possibilité-là et on a déjà permis aux citoyens de s'organiser pour protéger la nature en tant que sujet et non pas seulement quand ça a un impact sur nos vies.
Mais pardon, mais du coup, en vous écoutant, vous opérez encore très fort cette distinction entre la nature et les humains qui devraient se donner pour mission de la protéger. Finalement, parler en ces termes-là de protection de la nature, c'est encore opérer une grande distinction dans le vivant.
Oui, alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les nouvelles relations partenariales qu'on établit entre les écosystèmes dont les humains font partie. Mais pour notre affaire à tous, le travail à faire, il est vraiment sur l'action des dirigeants et des citoyens et de nos gouvernants, quoi. Donc effectivement, on va aller s'appuyer là où la responsabilité de l'être humain est en cause. La responsabilité de l'être humain, c'est de respecter les principes de précaution et de prévention qui sont censés déjà être intégrés parmi nos principes fondamentaux et parmi les règles qu'on respecte. C'est aussi d'ouvrir un droit aux générations futures, c'est-à-dire de laisser les écosystèmes de leur permettre de se renouveler et donc de ne pas dépasser les limites planétaires évoquées par Valérie Cabanès. Et puis aussi, et c'est là où notre action, celle de notre affaire à tous, est importante sur la question du dérèglement climatique, celle de confier la responsabilité aux humains de tout faire pour éviter le déplacement de ces limites planétaires. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, même quand les États agissent et prennent des dispositions en faveur de l'environnement, trop souvent elles sont en situation de manquement. C'est ce qu'on avait vu sur les algues verte, c'est aussi ce qu'on avait vu sur l'amiante, et il faut effectivement tout faire pour protéger et les humains et les écosystèmes de ce bouleversement climatique et de ce passage à l'ère de l'anthropocène et la destruction qui peut potentiellement en découler.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Oulala, 14h53 sur France Culture, c'est l'heure de la rubrique 5 fois. On demande à quelqu'un de nous raconter 5 choses en lien, 5 choses de son choix en lien avec notre chantier thématique. C'est Romain de Bec-de-Lièvre et Alice Ramon qui ont demandé à Pas comme tellement de leur parler de la fin du monde.
L'apocalypse, c'est ce qui apparaît quand le carnaval est plus possible, ou en tout cas quand les procédures carnavalesques viennent à complètement s'abolir, s'arrêter. On dit que le carnaval, en fait, est la réitération cyclique de l'âge d'or. Au début de l'histoire de l'humanité, les hommes étaient égaux, vivaient heureux, vivaient en amitié avec les animaux, vivaient en harmonie avec la nature, et étaient réalisés, c'est-à-dire que aussi tout homme était tout. Il n'y avait pas de distinction entre, mettons, les prêtres, les fous, les sots, les rois, les valets, etc. C'était une seule et même chose, c'était chaque homme était une totalité. Et dans l'entrée dans l'histoire ou dans la chute dans l'histoire, il y a commencé à avoir des distinctions, il y a commencé à avoir des inégalités, et le carnaval venait à renverser l'ordre des choses pour pouvoir permettre à chaque homme d'expérimenter ce qui n'était pas le reste du temps. Les jours chômés étaient très nombreux au Moyen-Âge. On dit même que c'était un tiers des jours du paysan qui était consacré à la préparation des fêtes. Les fêtes avaient un rôle très important et elles ont commencé à disparaître vraiment à partir de l'étatisation de la fête, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Depuis, les temps de fête sont de plus en plus courts, de plus en plus réduits, et par contre, ce qui apparaît, ce sont les phénomènes horrifiants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes cessent de se métamorphoser, cessent de se transformer en bêtes, en monstres, en loups, etc., etc., ces formes-là reviennent, mais sous une forme qui est absolument terrifiante, absolument horrible. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des monstres. Et même maintenant que les cirques ont quasiment disparu, il y a des clowns terrifiants. Mais le moment où tout ça s'arrête, le moment où il n'y a plus de possibilité de métamorphose, plus de carnavalesque, il y a une sorte de dernière fête. Et l'apocalypse fonctionne comme une sorte de dernière fête, une fête finale, mais une fête d'horreur, une fête triste, une fête sombre. Mais c'est quand même la fête, c'est quand même la nécessité pour le carnaval de revenir une dernière fois avant le recommencement du monde.
Dans le carnaval, on ne peut pas voir quelque chose comme une espèce de manière pour le pouvoir, justement, de domestiquer la fête?
Ça, c'est une question qui a été posée et reposée tout le temps. Alors, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que le carnaval est là parce que le pouvoir tient à domestiquer le peuple et donc lui donne, on va dire, un ersatz de pouvoir, ou est-ce que c'est le peuple qui réussit en résistant à conserver des jours de carnaval? Mais ça, c'est un peu pareil que quand on se pose des questions sur la question du travail et la question de rétribution. Sur le fond, les hommes devraient faire ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils ne peuvent pas, et ben qu'ils défendent leurs droits quand même.
Est-ce qu'on sait comment ou pourquoi est né le carnaval?
Non, ça se renvoie dans la nuit des temps, en fait, vraiment. Claude Gagnebé, qui est grand folkloriste, ethnologue folkloriste du XXe siècle, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, considère que carnaval, c'est la première religion. La première religion de l'homme, c'est-à-dire, en fait, commence le cycle annuel, et ça commence à la sortie de l'hiver, au moment où, de la déshibernation de l'ours. Et l'ours serait l'image du premier dieu. Donc l'ours sort de sa caverne, à ce moment-là c'est l'image du dieu pour les hommes, et c'est le moment aussi où les morts sortent tous de la caverne avec l'ours. Dans certaines des récits folkloriques, c'est l'ours pète et les morts sortent par le souffle du pet de l'ours. Et là, les hommes doivent domestiquer les morts le temps d'une fête, le temps d'une danse aussi, pour qu'ils retournent ensuite dans les autres mondes. Et après, il y a toute la question aussi des masques, comme les images du visage qui tient à se métamorphoser, enfin les images de la métamorphose. Mais c'est vraiment ça, ça remonte à des temps antédiluviens. It's the type of shit that they read about. Like Chris said, I gotta bleed it out. I've been in the zone, I can't be without this real shit that I be about. I'm a visionary that's long term, but Def Jam said they needed that. If I rush the shit, I might be without, but I need a vision, can't see without. I've been patient, never complacent. Left the underground when I left the basement, that's renovation. I spit this verse like a revelation. On the road with Kid Cudi and B.I.G. Conversations with no ID. Who made hits with Ye, got hits with Jay. Now you wanna fuck around and make hits with me. If it's meant to be, then it's meant to be. Can't express what that meant to me, what it mean to me, man. I swear to shit like a dream to me, what it seemed to be is so different now. Everything is so different now. I've been there and I've done that. Tell them all that I run that. That's a fun fact, and I'm back again cause I love the shit. Write it down and they publish it. I went 5 years without a publicist cause of word of mouth, they in love with this. I've been dreaming, I've been scheming. Went away a while, but I've been fiending. I miss the fan, but they know the deal. Been that away before the deal. Now the music got mass appeal. My main girl got ass appeal. I can feel the vibe, that's the main theme. Little fish that went mainstream, now I'm big as fuck. My whole city, they know what's up. I'm unsafe.
Till the End, on termine avec ce titre de Logic. Merci beaucoup Marie Toussaint d'avoir été avec nous. On peut se renseigner sur l'association Notre Affaire à Tous sur internet.
Oui, sur le site notreaffaireatous.org. Et merci à vous.
Merci à vous. Christophe Bonneuil, d'être arrivé finalement, pas si tard que ça. Vous signez avec Jean-Baptiste Fresseau l'événement Anthropocène, la Terre, l'Histoire et nous. C'est publié en poche, la nouvelle édition dans la collection Point. Et merci, merci d'avoir été par téléphone avec nous, Valérie Cabanès. Le titre de votre ouvrage, Un nouveau droit pour la Terre, pour en finir avec l'écocide, c'est paru au Seuil. Et je le disais tout à l'heure, vous serez au micro d'Aurélie Luneau ce dimanche 6 novembre. Les nouvelles vagues, c'est terminé. J'ai à peine le temps de dire que Romain Debecq de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et Marie Aubert la pensent et la préparent avec moi. Véronique Villa la réalise et aux manettes aujourd'hui, c'était Clément Daté. Dans un instant, la littérature sur France Culture.